BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express. Bonjour Vincent.
Bonjour Fabrice.
Allez voir l'Express de cette semaine. 7 pages, hein, Vincent Hugeux qui était il y a 2 semaines à Mossoul. Mossoul, le chaos et la peur. Grand reportage donc avec de très nombreuses photos. On y reviendra dans une demi-heure à peu près. Olivier Zajac est avec nous. Bonjour.
Bonjour Fabrice.
Olivier Zajac est maître de conférence en sciences politiques à Lyon 3, enseignant à l'école de guerre et auteur de Introduction à l'analyse géopolitique. Hein, un livre avec de nombreuses cartes, de nombreux schémas pour bien comprendre l'actualité géopolitique. Alors, une semaine, une toute petite semaine après son investiture, et Donald Trump ne s'est pas arrêté, ne s'est jamais arrêté avec un feu roulant de décisions, d'ordre présidentiel, une douzaine de décrets, sans oublier des menaces, des ultimatums, par tweet encore souvent. Alors, des mesures pour défaire l'Obamacare, pour se retirer du traité de libre-échange transpacifique, pour relancer des projets d'oléoduc controversés avec le Canada, pour freiner les arrivées d'étrangers aux États-Unis, pour réduire le financement de l'ONU, pour geler les embauches de fonctionnaires, pour rétablir la torture, pour braquer l'Europe peut-être aussi, parce que la première responsable étrangère à venir voir Donald Trump, c'était Madame Brexit, c'était Theresa May, et puis pour provoquer aussi une crise avec le Mexique, dont le président renonce à son voyage aux États-Unis, Donald Trump qui veut absolument lancer l'érection du mur.
Le secrétaire à la sécurité intérieure, en étroite collaboration avec moi et mon équipe, va lancer la construction immédiate d'un mur frontalier.
Et on y reviendra sur ce mur frontalier qui suscite évidemment beaucoup de tensions, hein, de part et d'autre, bien sûr. Et puis, alors, toutes ces décisions, cette avalanche de décisions a été prise sur fond d'euphorie boursière, avec un Dow Jones qui, pour la première fois, passait mardi le cap des 20 000 à New York. On y reviendra, bien entendu. Alors, tout ça, tout ce dont on vient de parler, évidemment, on va y revenir. Hein. Vincent Hugeux, Olivier Zajac, Vincent, tout ça est mis en scène à chaque fois. Signature de décret devant les caméras de télévision, depuis le bureau ovale. La Maison Blanche, elle ne l'a pas changé, Donald Trump. Il montre qu'il veut tenir ses promesses. Hein.
La magie du bureau ovale est une fiction. L'idée qu'un milliardaire compulsif, homme d'affaires, aventurier populiste, puisse tout soudain, touché par la grâce, devenir un homme d'État parce qu'il s'assoit dans le fauteuil du président des États-Unis est une chimère. Vous savez, puisque son genre littéraire favori est le tweet, eh bien je pense qu'on pourrait lui envoyer en moins de 140 signes un petit message qui serait « Hey Don, wake up, the campaign is over ». Et Donald, réveille-toi, la campagne est terminée. Le vrai problème, me semble-t-il, au-delà de toutes les mesures sur lesquelles on va revenir dans le détail, et notamment l'affaire du mur, qui est parfaitement emblématique de cette psyché-là, c'est que Donald Trump est encore en guerre contre tout et tout le monde. Il est surtout en guerre contre les faits. Et vous savez, il y a cet adjectif qui est presque galvaudé de « orwellien ». Bon. Mais là, en l'occurrence, la référence est explicite, puisque sa porte-parole favorite, ou en tout cas sa conseillère fétiche, Kellyanne Conway, a parlé de faits alternatifs, ce qui a conduit immédiatement à un bondissement des ventes du 1984 de George Orwell, car ce concept-là figure dans cet ouvrage. Bien. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? Parce que, vous savez, il y a dans l'œuvre d'Orwell la notion de pensée double et surtout de ministère de la vérité. Donc il y a un dogme, je détiens la vérité, je répète un mensonge, et là, les faits alternatifs renvoyés à l'affluence réelle ou fantasmée lors de l'inauguration. Et donc, voilà, on est donc dans l'orwellien, et puis, au fond, puisqu'on est à ces références-là, moi, j'ai une autre référence qui me vient spontanément à l'esprit, c'est Bertolt Brecht, qui, pour ironiser sur le totalisme communiste, et je ne dis pas ça par hasard, disait « Puisque le parti et le peuple ne sont plus en accord, il nous reste à dissoudre le peuple. Mmh. » Eh bien, puisque mon dogme et les faits sont en contradiction, il me reste à dissoudre les faits.
Ouais, Olivier Zajac, à force, est-ce qu'il n'aura pas besoin, derrière lui, d'un petit peu plus aller d'unité ? Des républicains aussi, mais pas que également. On a vu de très grandes manifestations le week-end dernier dans les rues de plusieurs grandes villes américaines.
Oui, effectivement, la manière dont Trump fonctionne aujourd'hui, c'est le rapport de force. Le rapport de force par le biais de la communication. Il veut mettre en place, ça c'est un mot qui est structurant pour lui, le deal. Il veut un bon deal, il veut un accord. Et pour ça, il commence par un rapport de force. Il prend les leviers et il sidère la partie adverse. Que ce soit la partie interne aux États-Unis, la vie politique, et puis également, sur le plan international, une communauté internationale complètement tétanisée et qui se demande quel va être le prochain épisode. Il est donc maître des horloges pour l'instant. Il fait la nouveauté et donc il est en position de force. Mais effectivement,
sans se soucier finalement quelque part de la vie de l'un ou de l'autre. Rien ne l'arrête. Aucune crainte, par exemple, de se fâcher avec le Mexique, avec le monde musulman. Quand il veut fermer les frontières aux étrangers, elle est indésirable. Hein. Et ce qu'il explique clairement, c'est le monde est déjà en colère, le monde est un foutoir. Donc finalement, continuons comme ça.
Oui, c'est effectivement une stratégie du pire pour l'instant, une stratégie de la tension. Et rien ne dit qu'elle ne va pas lui profiter aujourd'hui. Parce que quand on regarde le paysage, que ce soit la négociation du traité transpacifique, donc il a rayé d'un trait de plume, c'est quand même des années de négociations de l'administration Obama. Il n'y avait pas seulement un volet économique sur le transpacifique, il y avait un volet militaire, un volet de réassurance sécuritaire de ces pays qui craignent l'émergence de la Chine. Premièrement, il y a également le dossier de l'OTAN. Trump a beau jeu de dire effectivement, vous ne payez pas, vous Européens, le prix de votre propre sécurité. Ça fait des années que ça dure, on ne peut pas lui reprocher de ne pas l'avoir dit. Il l'avait dit pendant la campagne. Il a été élu, il fait ce qu'il avait dit sur un mode encore plus hyperbolique que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et puis sur le dossier du Mexique, il l'avait dit. Souvenez-vous de ses discours de campagne. Regardez, il s'adressait à ses partisans, regardez Israël. En Israël, ça marche. Nous aurons un mur, demandez aux Israéliens, vous verrez, ça marche. Évidemment, ça n'est pas comparable. On est dans une argumentation totalement faussée. Il n'empêche que ça a porté. Et qu'aujourd'hui, en face de lui, les gens qui ont besoin de l'Amérique, même de l'Amérique de Trump, il a donc un levier aujourd'hui.
Ouais, il parle à ses électeurs, bien entendu. Il les prend dans le sens du poil. Sur l'applicabilité des mesures, sur la faisabilité, on va prendre un exemple. Tiens, Vincent Hugeux, quand Trump dit que la torture, l'usage de la simulation de la noyade, hein, le waterboarding, il dit ça marche. Il faut la rétablir. Et on sait que le ministre de la Défense, on sait que le directeur de la CIA, ils n'y sont pas beaucoup favorables. Ils ne sont pas du tout favorables. Beaucoup de républicains aussi. Alors, il va le faire ou pas, ça ?
Alors, cas d'école tout à fait éloquent. Autant il peut être totalement péremptoire, je maintiens le cap, je ne dévie pas sur certains sujets, jusque la provocation, autant il peut être flottant sur d'autres. Pardon pour l'allusion un peu hasardeuse. Bien, regardez, il dit, lui, dans des interviews récurrentes, ça fonctionne, ça marche absolument. Vous avez James Mattis, le nouveau patron du Pentagone, qui, lui, s'en tient au statu quo. C'est-à-dire qu'officiellement, dans le code qui est confié à chaque officier américain, non, nous ne recourons pas à ce type de pratique. Et vous avez un John McCain, par exemple, un vétéran quand même, qui dit ça ne fonctionne pas du tout, etc. Et donc, quelle est pour lui la sortie de piste ? Pour s'en sortir, il dit « Ah ben, je m'en remettrai à l'avis du patron du secrétariat à la Défense ». Donc, Mattis en question, et puis à l'avis également du patron de la CIA. Mais il y a encore plus éloquent, me semble-t-il, dans ce choc du réel. Prenez le cas du mur mexicain que vous évoquiez tout à l'heure.
Bien sûr, bien. Ouais.
On a déjà aujourd'hui, sur 3200 km de frontières communes, il y a déjà, grosso modo, 1050 km qui sont, d'une manière ou d'une autre, clôturés.
Le tiers, oui.
Combien ça coûte ? Les estimations vont de 12 à 40 milliards de dollars, selon les experts. Bien. Mais quel est le problème ? Il est très simple, c'est que l'emprise, elle porte également sur des terrains privés qui ne peuvent pas être expropriés comme ça, d'un trait de plume de décret ou d'un claquement de doigts. Et puis il y a par ailleurs des accords et des traités qui ont force internationale, qui interdisent d'altérer le partage des eaux, puisqu'il y a des zones où c'est un fleuve qui est la frontière naturelle. Voilà, on a là le cas typique où le principe de réalité vient cogner avec la force du dogme.
Voilà, Rio Grande notamment. Alors c'est vrai, ce clash avec le Mexique, dans ce contexte aussi de renégociation avec l'ALENA, et Trump l'avait dit sur Twitter au président mexicain, si vous ne payez pas le mur, inutile de venir me voir à Washington. Pas Enrique Peña Nieto, il a renoncé. Hein. Écoutez son ministre des Affaires étrangères.
À pesar de nuestro desacuerdo, reconocemos.
Malgré nos désaccords, nous reconnaissons la souveraineté des États-Unis et son droit de protéger ses frontières, selon ce qui convient au peuple et au gouvernement américain.
Pero de ahí
À partir de là, prétendre que le peuple mexicain va payer un mur, c'est faire d'un acte de souveraineté quelque chose de profondément inacceptable.
Voilà, le ministre mexicain des Affaires étrangères, du coup, la Maison-Blanche, elle dit, vous ne payez pas directement, on va vous imposer des taxes de 20% sur vos produits. Donc, bon, à voir. Olivier Zajec, le Mexique, il est dans la ligne de mire. L'histoire du mur, l'histoire des usines d'automobiles qui pourraient être rapatriées. Les immigrés, justement, reconduits. Est-ce que le Mexique a les moyens de résister aux géants américains?
Il faut regarder, ce que je disais tout à l'heure, c'est la capacité des États-Unis à imposer une décision qui, effectivement, on le disait, se heurte au fait. Il y a une interdépendance aujourd'hui économique depuis que l'ALENA, le traité de libre-échange qui unit le Canada, les États-Unis et le Mexique a été signé en 1994. Bien sûr, ils ont eu trois fois une augmentation. Leurs exportations ont bondi de manière très importante ces 15 dernières années. Le Mexique a vraiment profité de l'ALENA. Et c'est vrai que du côté américain, Donald Trump a beau jeu de dire, regardez, on est en déficit commercial de 53 milliards avec le Mexique, alors qu'avant la signature de ce traité de libre-échange, on avait un petit excédent commercial, mais on en avait un. On avait quelque chose à saisir et à mettre en avant.
Versus un équilibre avec le Canada, voilà. Oui.
Versus un équilibre avec le Canada. Donc effectivement, du point de vue économique, Donald Trump peut jouer sur différents chiffres et vis-à-vis de son électorat, il joue sur du velours d'une certaine façon. Et en même temps, il y a une vraie interdépendance économique aujourd'hui entre les États-Unis et le Mexique. Les produits que l'administration Trump voudrait taxer à 20%, éventuellement, où est-ce qu'ils sont fabriqués
au
Mexique, mais ils profitent à l'économie américaine, effectivement, et ils se rendent compte, là, au dernier moment, qu'il pourrait se tirer une balle dans le pied. Alors, il rétropédale, il est dans le rapport de force, et en même temps, on voit une certaine irresponsabilité.
Vous avez raison, l'ouvrier automobile américain qui voit, en effet, son emploi maintenu sur le territoire américain, des États-Unis, quelque part, s'il devient consommateur, parce que quand il sort de l'usine, il va aller acheter, et si c'est pour payer beaucoup plus cher ses produits, il ne va peut-être pas forcément en tirer profit. Vincent, dans les propos de Trump, de l'administration américaine, il y a un peu d'humiliation, un peu d'affront fait à plus faible que lui.
C'est de toute façon la stratégie de la sidération qui était évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire que je fragilise l'adversaire pour l'amener à récipiscence et faire apparaître un compromis qui est à mon avantage comme quelque chose d'équilibré. Mais l'affaire des taxes, là aussi, on revient à ce type de flottement que j'évoquais tout à l'heure. Parce que dans un premier temps, oui, on balance le coup de sonde, les 20% de taxes, par la voix du légendaire Sean Spicer, qui est quand même un menteur pathologique, donc le porte-parole aujourd'hui de Trump, et qui persiste dans le mensonge en croyant qu'il va convertir ça en vérité établie. Bon, donc rétropédalage après, c'est plus aussi simple. Et puis la Chine, considérons tout ce que les consommateurs américains, à commencer par les électeurs de Trump, achètent et qui vient de Chine ou du Mexique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la taxation va conduire à un renchérissement des produits qui va affecter directement le pouvoir d'achat des Trumpolâtres qui l'ont porté au Capitole. Donc voilà encore un exemple de ce choc qui va sans doute l'amener, à un moment donné, à mettre un peu d'eau dans son vin. En tout cas, on peut l'espérer.
Et au chapitre des... Olivier Zajec.
Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas seulement dire à l'électeur américain, vous allez payer vos produits plus chers s'il y a un mur et si...
On remet en cause le TPP avec les Chinois.
Ça ne marche plus complètement. Vous avez une classe moyenne américaine qui est paupérisée, qui a perdu ses emplois, une baisse des emplois manufacturiers aux États-Unis qui est quand même extrêmement importante depuis 15-20 ans. Et donc, ils se déterminent plus seulement sur le prix d'un certain nombre de produits chez Walmart, les Américains. Ils ont besoin d'un autre discours. Et là aussi, Trump, la politique qu'il mène, elle est extrêmement habile. Il leur dit, je vais changer ce monde-là, je vais restaurer votre dignité, je vais restaurer vos emplois, pas seulement vos emplois et votre pouvoir d'achat, également votre dignité comme travailleur. Ce message porte. Il a été élu et pas complètement par hasard. Il faut bien voir ça. Il humilie le Mexique. Il met à bas toute la manière dont la diplomatie est fondée aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement choquant. Il enchaîne erreur sur erreur. Et en même temps, le message qui est porté à l'électeur américain, au col bleu américain, il porte là-dessus. Oui, vous allez peut-être payer un peu plus cher vos produits de consommation, mais vous allez retrouver un emploi, une dignité.
À une nuance près, c'est que sur le plan diplomatique et militaire, l'accord sur le nucléaire iranien, dont il a dit maintes fois que c'était le pire accord de l'histoire et que il allait s'employer à le déchirer dès son arrivée dans le bureau ovale. Mais c'est pas un accord bilatéral.
Ben non, l'accord il y a juste 6 personnes.
Ça engage États, ouais. les États
Allemagne, Royaume-Uni, France,
de manière permanente au Conseil de sécurité des Nations Unies, plus l'Allemagne. Mmh. Et d'ailleurs, chacun de ceux-ci, y compris Londres d'ailleurs. Je trouve que le tango avec Theresa May, on y reviendra sans doute, n'est pas aussi simple que ça.
Juste encore un mot sur le libre-échange, se retirer du TPP, le traité transpacifique, là aussi, avec peut-être un revers de la médaille, des effets donc peut-être non désirés. Ça va ouvrir aux Chinois de nouvelles portes, de nouveaux accords bilatéraux en Asie, le long du Pacifique. Olivier Zajec.
Il y a deux choses dans cette affaire de traité transpacifique. La première, c'est que en mettant à bas ce traité qui avait été négocié par l'administration Obama, Trump passe à côté d'un des leviers immenses de la puissance aujourd'hui, qui est la capacité de dire la norme. De dire la norme, de dire le standard des produits, de dire le standard des objets que l'on vend, etc. L'Amérique
et
a ce pouvoir.
Et avec des conséquences sur la sécurité, peut-être. Voilà,
c'est
la sécurité alimentaire.
Exactement, c'est la grande puissance qui dit les normes. En se retirant, elle laisse, l'Amérique laisse la voie à la Chine, peut-être demain, en raison du poids économique de la Chine, c'est elle qui dira la norme. Et ça, c'est renoncer à un levier de puissance. On est dans l'erreur de ce point de vue-là.
Encore un mot sur, parce qu'on continue de voir un peu toutes les décisions qu'a pris Donald Trump durant sa première semaine de président. Il veut relancer aussi deux projets d'oléoduc controversés qui avaient été bloqués par Barack Obama, le Keystone XL, 1900 km entre l'Alberta canadien et ses schistes bitumineux et le Nebraska américain, et puis le Dakota Access entre le Dakota et l'Illinois, traversant des réserves Sioux. C'est priorité à l'emploi, et là, au détriment de l'environnement, Vincent Hugeux ?
Oui, avec en plus, en prime, je dirais, en bonus, le reflet d'une détestation absolue contre ces élites, par exemple, écologistes, et pas seulement intellectuelles. Songez quand même qu'il place, rappelons-le, à la tête de l'Agence de l'environnement, quelqu'un qui s'est employé ces dernières années à en saper les bases et à la discréditer. Et c'est mieux que ça. Sur le site de tel ou tel parc national, eh bien, toutes les références à l'impact de l'activité humaine sur l'échauffement climatique ont été zappés. Quand je faisais une allusion quasiment stalinienne tout à l'heure, c'était pas par hasard. Ça renvoie à cette idée que sur la photo du politburo, eh bien celui qui a été disgracié disparaît. Hein, c'est Photoshop avant l'heure. Donc voilà. Donc on fait disparaître, y compris des sites, ce qui pourrait aller à l'encontre du dogme dominant.
Ouais, et en début de semaine, devant des chefs d'entreprise, ils promettaient justement la fin des réglementations pro-environnementales. Qui vont trop loin, selon lui, les responsables entrepreneuriaux des milieux d'affaires qui ont applaudi. Et d'ailleurs, au milieu de tout ça, bah justement, il y avait cet événement mardi à Wall Street, le Dow Jones à 20 000, une première. Oui, le Dow Jones qui, depuis des semaines, monte, hein, puisque l'économie américaine se porte bien, et qui apparemment aurait attendu ou pas l'investiture de Donald Trump pour franchir le cap. Les milieux économiques, Olivier Zajec, ils parient vraiment sur Donald Trump. Ils ont salué à leur façon, quelque part, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Certains d'entre eux, bien évidemment, il est quand même pro-business, ils sont présents comme ça. Il va pas remettre en cause une certaine dérégulation financière, économique, qui a quand même structuré la mondialisation sous direction américaine depuis des années. Il n'est pas contre cette dérégulation-là, si elle est au bénéfice de l'Amérique, America First. En revanche, effectivement, il va rétablir un certain protectionnisme, en tout cas, une capacité à négocier de manière bilatérale avec chaque pays, au mieux des intérêts des États-Unis. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais ce qu'il a fait toute sa vie. Toute sa vie dans ses deals immobiliers, toute sa vie d'homme d'affaires qui est tombé, qui s'est relevé, etc. Il garde sa culture, une culture qui n'est pas du tout adaptée à la complexité aujourd'hui diplomatique du monde, à l'importance des organisations internationales, à la capacité de convergence diplomatique, culturelle. Mais en réalité, il est persuadé que ce sera au mieux de son pays. Effectivement, le business suit.
Sur le Dow Jones, j'entends des experts, et je n'en suis pas
expliqué d'abord. On les a entendus sur BFM Business.
Que les 20 000, très bien, c'est indéniablement un cap historique et symbolique, mais que l'indice lui-même est un tantinet anachronique et ne renvoie pas nécessairement à l'économie réelle. Mais au-delà de ça...
Il faudra garder les sommets quand même. Voilà, c'est pas le tout d'y arriver, il faut y rester. Voilà.
Et puis au-delà de ça, les images que nous voyions à l'instant, cette sorte d'euphorie, d'ivresse de la performance, il faut quand même voir un tout petit peu plus loin que son taux de profit mensuel.
Un mot. Quelle importance, quelle interprétation donnée au fait que c'est Theresa May donc, qui a été la première ce vendredi à être reçue comme responsable international à venir voir Donald Trump. Vincent Hugeux, est-ce que c'est un nouveau pied de nez à l'Europe? Je cite François Hollande vendredi matin, l'administration Trump représente un défi pour l'Europe.
Dès lors que vous sanctifiez le Brexit et que vous appelez d'autres nations européennes à imiter l'exemple londonien, il est parfaitement naturel que la première hôtesse, officiellement reçue après la prestation de serment, soit Theresa May. Mais là encore, retour à la résistance du réel. Theresa May n'est pas là pour simplement bénir benoîtement et béatement les oukases de son partenaire. Elle est aussi là pour rappeler, par exemple, je ne cite que celui-là, que l'OTAN, l'OTAN, c'est quand même la pierre angulaire de la sécurité de l'Occident. Elle est là pour rappeler que sur la question des musulmans, des femmes, de l'accord avec l'Iran, etc. Et puis, dernier point, je fais très court là-dessus, tant que le divorce entre Londres et l'Europe n'est pas prononcée, elle ne peut rien engager de bilatéral et de privilégié dans la relation spéciale dont on dit qu'elle perdure entre Londres et Washington.
Ouais, Trump qui veut geler l'entrée de ressortissants de 7 pays musulmans, dont l'Irak, l'Iran, la Libye, le Soudan, la Syrie, etc., sauf les chrétiens. Il veut bloquer l'admission de réfugiés et il menace de représailles les villes qui refusent d'expulser les clandestins, comme San Francisco, New York, Phoenix, Dallas, Houston. L'image du pays, est-ce qu'elle a changé en une semaine, Vincent Hugeux?
Oui, je le crois. Je le crois parce que la chimère selon laquelle, évidemment, l'inertie propre au mode de fonctionnement de l'administration américaine allait en quelque sorte amortir le caractère provocateur, obsessionnel des premières annonces de Trump, eh bien, voilà, cette illusion-là, elle s'est effondrée. Et donc, je pense effectivement que déjà, l'image des États-Unis, continent américain, est bien au-delà, en Europe, mais aussi en Afrique, a été durablement affecté.
Mais Olivier Zagier, il reste encore 4 ans, au moins une semaine, quelque part, à Trump. Hein. On ne va pas non plus le condamner juste au bout de sa première semaine.
Il vient d'arriver.
Ouais.
Il a fait des promesses. Il a pris une posture. Il avait un programme. Des soutiens. Il était seul contre tous. Il a gagné seul contre tous. Il a un certain nombre d'éléments à donner quand même à son électorat. Il les donne. La question, effectivement, bien malin qui pourra dire aujourd'hui, il y a beaucoup d'experts, il y a beaucoup de commentateurs.
Comment il va s'ouvrir éventuellement, mettre de l'eau dans son vin, comme on disait.
De quoi ces 4 ans vont être faits? En réalité, on n'en sait pas grand-chose. Ce qu'on voit, c'est qu'il a quand même des gages à donner à son électorat. Ouais. Et ne jugeons pas, je pense, pour l'instant, cette première semaine, je crois que c'est une semaine un peu de folie, une semaine de tétanie.
Grâce, voilà, quelque part.
Oui, il y a ça. Il faudrait voir. Moi, je dirais, revoyons les choses dans 6 mois. Ça sera, à mon avis, plus clair.
Vincent, en attendant, il verrouille la communication, pour ne pas dire, il exerce une vraie censure. On revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Je cite son conseiller Steve Bannon cette semaine. Les médias doivent se taire. Ils sont le parti d'opposition. Vous êtes grand reporter à l'Express, Vincent, c'est aux journalistes que je m'adresse. Le divorce avec la presse, il n'est pas nouveau. On se souvient de cette conférence de presse un peu survoltée, donc, où il avait empêché un journaliste de CNN de poser une question. Et Trump, qui n'a pas apprécié que les médias, le week-end dernier, disent que sa cérémonie d'investiture, il y a moins de monde que pour celle d'Obama, il y a 8 ans.
Mais je crois d'ailleurs que cette adversité lui convient et qu'il va enfoncer le clou de la détestation de cette élite intellectuelle de la côte Est qu'incarne à l'évidence un New York Times, un Washington Post et certains réseaux de télévision, parce que ça sert son dessein. Donc je veux dire, cette exécration-là, elle rencontre un véritable écho chez les lecteurs basiques de Trump. Ne l'oublions pas.
7 jours dans le monde à suivre sur BFM Business, à la télé, à la radio. Donc les dirigeants israéliens qui aussi apparemment profitent de l'arrivée de Trump pour relancer un vaste programme de colonisation à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. On va retrouver Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express, avec son reportage donc consacré à Mossoul cette semaine. Et puis Olivier Zagier, auteur de Introduction à l'analyse géopolitique. À tout de suite.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et c'est toujours 7 jours dans le monde sur BFM Business, à la télé, à la radio. Retour sur l'actu internationale de la semaine avec le grand reporter de l'Express qui est Vincent Hugeux, auteur de Reine d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames. On continue de le mettre en avant, ce livre qui est vraiment pittoresque sur la vie des First Lady africaines, qui connaît par cœur, bien entendu, Vincent. Olivier Zajac est avec nous, maître de conf en sciences politiques à Lyon 3, enseignant à l'école de guerre, auteur de Introduction à l'analyse géopolitique, avec de nombreux graphiques, des cartes également, pour prolonger la réflexion de tout ce dont on est en train de parler depuis maintenant une demi-heure. Pas tout à fait. Alors, l'effet Trump, dont on parlait, est-ce qu'il se fait ressentir jusqu'en Israël? Oui, la réponse est oui. On va vous expliquer ça dans un instant. La vie reprend son cours en Judée-Samarie. Oh, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ultra-religieux, le ministre de la Défense israélien, Avigdor Lieberman. Oui, la Judée, la Samarie, c'est la Cisjordanie, vu du côté d'Israël. Le gouvernement qui annonce là-bas la construction de 2500 nouveaux logements dans les colonies, dont immédiatement une centaine à Jérusalem-Est. Alors, pourquoi ça s'accélère? C'est clair, grâce ou à cause de l'arrivée de Donald Trump. Voilà ce qu'affirment les responsables israéliens, comme bien l'un des élus, le maire adjoint de Jérusalem.
On m'a demandé d'attendre jusqu'au 20 de ce mois, au moment où le mandat de Donald Trump commencerait. Trump nous donne de l'espoir. Trump a dit clairement qu'il autoriserait des constructions à Jérusalem, à l'opposé des décisions de non-sens prises auparavant par les Américains.
Voilà, le maire adjoint de Jérusalem, Vincent Hugeux, finit donc la retenue. Donc, quand Obama était président, une nouvelle ère démarre. On construit.
C'est la fin du calvaire pour Benjamin Netanyahou, dont on sait très bien que les relations avec Obama étaient exécrables. Et d'ailleurs, pour preuve, le chant du cygne d'Obama, bien tardif d'ailleurs, c'est lorsque les États-Unis, en décembre dernier, s'abstiennent d'opposer leur veto. Et permet donc une résolution condamnant cette colonisation frénétique de passer. Mmh. Donc quand même, en 4 jours, 3000 logements annoncés et des milliers à venir. Et on en est au stade où il y a eu un débat, voilà quelques jours, au sein du cabinet israélien sur le thème, est-ce qu'on annexe ou pas, sans l'aval de Donald Trump, notre nouveau parrain, la colonie de Mahalé Adoumim, qui se trouve donc en Cisjordanie. On en est là. Et un élément qui, à mon avis, passe trop inaperçu, c'est que donc vous avez une fenêtre de tir formidable pour Benjamin Netanyahou, à la tête du gouvernement le plus à droite de l'histoire de l'État d'Israël, et de loin. Bon, avec le dénommé Avigdor Lieberman, dont il faut quand même rappeler qu'il est d'abord un prix de justice et ensuite un ancien videur de boîte de nuit de
Moldavie.
Bon, eh bien, quand Benjamin Netanyahou voit cette fenêtre de tir s'ouvrir, il s'y engouffre, mais pas seulement parce que ça correspond à sa perception idéologique de la destinée du peuple juif, mais aussi parce qu'il est lui-même en délicatesse avec la justice de son pays. Alors c'est un cas de figure classique en Israël, le premier. Il a quand même été entendu, lui et des membres de sa famille, sur des dossiers très embarrassants de cadeaux reçus d'hommes d'affaires, d'autres affaires de carambouille, et voici que maintenant affleure un scandale apparemment sur les conditions dans lesquelles des sous-marins de guerre allemands ont été acquis. Bon, donc je veux dire, c'est aussi une façon, par effet de souffle, de reléguer ces tracas judiciaires en incarnant ce qu'il considère être comme, encore une fois, la destinée conquérante de son pays.
Olivier Zajac.
Ce qui me frappe, c'est le contraste absolu entre les deux discours de John Kerry, donc secrétaire d'État d'Obama, en décembre, le dernier c'était le 15 janvier, me semble-t-il, où, de manière assez convaincante, d'ailleurs, il reprenait cette position des États-Unis sur la solution à deux États, un État juif, un État palestinien, et en quelques jours, cette vision s'effondre, cette vision se fissure, cette vision se fragmente. Effectivement, c'est un bel, beau moment d'opportunité pour Benjamin Netanyahou, qui doit donner des gages sur sa droite d'ailleurs en Israël aujourd'hui, parce que vous dites bien, il est de plus en plus isolé, il a besoin de soutien, c'est une occasion en or pour se renforcer sur sa droite, d'ailleurs on se demande où elle s'arrête en ce moment.
Et Trump, il a nommé donc un ambassadeur américain donc en Israël, pro-Israël vraiment là. Mais alors, où est-ce qu'il va s'installer? Tel Aviv ou Jérusalem? L'ambassade est à Tel Aviv actuellement, comme l'ambassade de France, comme l'ambassade quasiment tous les pays, parce que Jérusalem est considérée comme étant coupée en deux, avec une partie qui a été annexée par Israël, et ce qui est parfaitement illégal. Trump veut mettre l'ambassade américaine à Jérusalem.
Magnifique illustration de ce que nous évoquions tout à l'heure, aussi dans les ambiguïtés du personnage. C'est-à-dire que dans sa campagne, il martèle le même message. L'ambassade sera transférée à Jérusalem. Et puis maintenant, quand vous interrogez son entourage, c'est un tout petit peu plus tortueux. Il n'y aura pas d'annonce imminente. Ça, c'est la dernière version que j'ai captée voilà quelques jours. Donc, là aussi, je pense qu'il reste désireux de respecter sa promesse. Et puis, ben, il se trouve qu'il y a encore un effet de réel. Enfin, n'oublions pas quand même que, mis à part deux pays latino-américains qui, jusqu'en 2006, avaient leur ambassade à Jérusalem, il n'y en a plus aujourd'hui.
Bon. Tout juste, ouais.
Donc ça veut dire que c'est un geste qui aurait une portée énorme. Et ça, je veux dire, les gens du département d'État en sont pleinement conscients.
Ils le savent, bien sûr. Alors, la Syrie, on ne va pas l'oublier, évidemment, au milieu de cette actualité dominante venue des États-Unis. Astana, c'est la capitale du Kazakhstan, hein, tout au nord. Là-haut dans les steppes du Kazakhstan, en début de semaine. Premier pourparler entre les chefs militaires de l'opposition syrienne et les représentants du régime de Bachar el-Assad sous l'égide des parrains que sont la Turquie, l'Iran et la Russie. Alors, bilan apparemment en demi-teinte, hein, ni échec ni succès. Alors oui, il y a un engagement vers une consolidation du cessez-le-feu, hein, qui avait été conclu donc fin décembre, après le contrôle de Alep Est, la chute d'Alep. En revanche, sur le terrain, eh bien, on assiste à une accélération des combats entre les rebelles dits modérés et les djihadistes, notamment dans le nord-ouest de la Syrie. Quel point retenir donc de cette conférence d'Astana? Allez, Olivier Zajac, s'il vous plaît.
Moi, je crois que au niveau géopolitique, c'est le basculement du monde et l'influence. Après ce qui s'est passé en Syrie, l'intervention russe, la manière dont la Russie a réussi à rassembler, à quel prix, mais dans une guerre qui fait des victimes, reprise d'Alep, succès pour le régime de Bachar el-Assad. Et aujourd'hui, eh bien les deals, aujourd'hui les négociations, ce sont des acteurs extérieurs à l'Occident qui les font et qui les réalisent. La Turquie, l'Iran, la Russie. Puissance régionale, on est donc bien dans un basculement de l'influence et de la puissance, en tout cas dans cette région. Pour moi, ça c'est l'élément structurant.
La suite aussi, on dit qu'au sein des grands parrains, il y aura un début de divergence entre Iran et Russie. Alors tiens, Baba Sanjou, Moscou qui milite pour une solution davantage politique désormais et moins militaire, et puis Téhéran qui voudrait profiter justement de ces avancées militaires et même les poursuivre.
On est au royaume de l'équivoque. Vous avez cette sorte de triumvirat qui maintenant règne sur une Syrie protectorat. À tel point quand même que les Russes ont fourni à la délégation des rebelles dits modérés une constitution clé en main, en les sommant de l'avaliser, ce qu'évidemment ils n'ont pas fait. C'est vous dire à quel point on est dans une posture quasiment coloniale. Bon, les ambiguïtés du triangle Téhéran, Moscou, Ankara, que vous évoquiez. Eh bien sûr qu'elles sont là. D'abord parce que les Iraniens sont très embarrassés par le rapprochement spectaculaire entre Erdogan le Turc et Poutine le Russe, après une période de brouille que l'on connaît. Bon. Et que, effectivement, les buts de guerre et d'après-guerre ne sont pas les mêmes. Les Iraniens veulent continuer de sécuriser leur allié arabe, le seul, et leur vecteur vers leur création, le Hezbollah libanais. Bien. Dans une période où, enfin, accède à la présidence à Beyrouth, un chrétien, certes, le général Aoun, mais dont on sait qu'il est extrêmement
proche,
bienveillant
du Hezbollah.
Envers les chiites en général, le Hezbollah en particulier. Donc, derrière cette apparente union de ces trois parrains, et je crois que le terme est idoine, eh bien, il y a déjà énormément d'ambiguïtés et de lignes de faille qui vont forcément se creuser dans les mois qui viennent.
Un mot sur le terrain en Syrie, Olivier Zajac, vous enseignant à l'école de guerre. Il y a une accélération des combats donc entre djihadistes et rebelles dits modérés, justement. Il y a toujours des villages assiégés par Bachar el-Assad. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé, je vois, 2 semaines, parce qu'on a beaucoup parlé de Trump dans 7 jours dans le monde sur BFM Business. Où est-ce qu'on en est?
La guerre continue.
Ouais.
Vous avez un certain nombre de villages qui sont encerclés par l'armée de Bachar el-Assad. Vous avez un certain nombre d'endroits du pays qui continuent à subir la pression des armées qui sont engagées en Syrie. Mais en réalité, enfin, bien sûr, la guerre continue, mais pour l'instant, on met au crédit de la Russie d'avoir réussi à installer une trêve plus ou moins respectée. Mais c'est déjà beaucoup par rapport à la situation qui prévalait auparavant. Donc on dit, effectivement, la Russie parrain, la Russie cynique, etc. Il n'empêche que pour l'instant,
ça a l'air de tenir.
Pour le constater, elle a réussi à faire baisser la tension pour l'instant, et elle s'en sert. Effectivement, c'est un levier d'influence, de puissance aujourd'hui pour elle.
Parce que je voudrais qu'on parle de Mossoul après.
Et en l'absence totale des Occidentaux,
toujours.
On a omis de rappeler qu'ils ont totalement disparu des écrans radars.
Bien sûr. Et puis l'État islamique qui occupe encore une fois en Syrie, évidemment des territoires malgré les bombardements. Alors offensive contre Daesh en Syrie, et puis premier succès d'importance aussi en Irak, à Mossoul, enfin, j'allais dire. Puisque la moitié est et a été libéré donc il y a une dizaine de jours après 3 mois de combat, l'occupation islamiste qui durait maintenant depuis quasiment 3 ans, vous savez, depuis juin 2014. Les terroristes qui apparemment se jettent sur un autre front, l'incendie de champs de pétrole. Tiens, écoutez, témoignage de ce pompier, c'était sur BFM TV.
Aujourd'hui, on va essayer de reprendre le contrôle de ce puits. On attend l'arrivée de grandes quantités d'eau. Ce puits, c'est l'un des plus grands incendiés par l'État islamique.
Alors, Vincent et je, vous y étiez encore il y a moins de 2 semaines pour l'Express, à lire donc dans le numéro de cette semaine un reportage, 7 pages, vos récits, les photos, citez votre ami photographe.
Oui, Arnaud Andrieux.
Voilà, Arnaud Andrieux, le chaos et la peur, voilà, à Mossoul. Hein, donc. Tiens, ce qu'on vient d'entendre, ce pompier avec cette équipe de BFM TV, c'est quoi? C'est la politique de la terre brûlée ou aussi faire des grosses fumées noires pour empêcher que des drones viennent taper les positions de Daesh?
Les deux, mon général. Vous savez, quand j'ai visité dans une petite ville qui s'appelle Hammam al-Alil, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Mossoul, qui était vraiment un bastion de Daesh, j'y ai découvert deux charniers. Et alors, c'était très frappant, c'est une période où la météo était très limpide, il faisait froid mais sec et ensoleillé, et vous arriviez dans ce décor évidemment dantesque, à la côté d'un institut d'agronomie qui avait été réduit à l'état de ruine, au moment du départ aussi, et vous aviez donc un nuage noir qui occultait l'horizon. Et c'était précisément l'effet de ces incendies systématiques. Effectivement, il s'agit d'abord de couvrir un peu sa retraite, et puis, au fond, de saper les fondements d'une reprise, d'une certaine forme de normalité économique après la défaite ou le retrait. Mais n'oublions pas, vous y avez fait allusion en lancement, que pour le moment, au mieux, la coalition et l'armée irakienne n'ont fait qu'une petite moitié du chemin. Parce que quand vous regardez la géographie de la ville, les quartiers les plus densément peuplés, les quartiers qui sont plus anciens, donc avec des entrelacs de ruelles, extrêmement propices à la guérilla urbaine, aux snipers, aux engins piégés, etc., eh bien c'est sur l'autre rive que ça se passe. Avec un risque, là encore, d'effets collatéraux sur les civils et d'exode massif d'édits civils. Donc, je veux dire, on est loin du compte. Très franchement, soyons clairs, Mossoul, donc la capitale de ce califat fantasmé et peau de chagrin, tombera pendant l'exercice 2017. J'ai eu l'occasion de discuter, par exemple, avec des officiers de renseignement irakiens. Bon, mais eux-mêmes disent, mais attention, sauf, hypothèse assez improbable, un soudain effondrement, il n'y a pas de voie de repli. Dès lors que l'axe entre Mossoul et Raqqa, le bastion syrien a été coupé. Mmh. Bon, et puis en plus, c'est pas dans leur mentalité, aux combattants de Daesh, que de rendre les armes et de signer leur reddition.
La population, qu'est-ce qu'elle fait la population dans cette moitié est qui a été libérée, elle part ou elle reste?
Alors, ce qui est très étrange, c'est que quand vous postez un checkpoint dans une zone très fraîchement libérée, vous entendez donc les rumeurs des combats dans le quartier suivant, vous avez des gens qui se croisent. Ouais. C'est-à-dire ceux qui fuient croisent ceux qui soit tentent de rentrer. Ouais. Dans leur rue qui vient d'être reconquise, soit change de refuge pour s'en approcher ou échapper à une autre poche de violence. Le solde, pour le moment, reste, je dirais, en faveur de ceux qui quittent, mais il semble qu'il y ait une inversion du phénomène depuis quelques jours, et on parle par exemple de la réouverture d'écoles dans certains quartiers de Mossoul-Est.
Ah, et des enfants, j'imagine, qui sont fous de joie, oui, pour une fois d'ailleurs, de retourner à l'école. Juste un mot, il y a la bataille avec les armes, bien entendu, des armes pas toujours très très propres. La bataille des ondes également, c'est ce que vous racontez dans l'Express, Vincent Hugeux.
Et oui, parce que vous avez dans une sorte de petit quartier sécurisé de Erbil, donc la capitale du Kurdistan autonome d'Irak, vous avez le siège d'une petite radio qui s'appelle Al-Had FM, donc radio demain, radio futur, eh bien qui continue d'émettre et qui réussit en fait par le jeu des appels spontanés à donner la parole, y compris à ceux qui sont sous le joug de Daesh, ce qui requiert d'ailleurs un certain courage.
7 jours dans le monde, on va retrouver dans un instant Vincent Hugeux, l'Afrique, retour à la normale en Gambie, et puis Olivier Zajec, auteur de Introduction à l'analyse géopolitique. Restez avec nous sur BFM Business.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et toujours avec Vincent Hugeux de l'Express et Olivier Zajec, qui est maître de conférence en sciences politiques à Lyon 3. Direction la Gambie, on le rappelle, c'est un tout petit pays pauvre, complètement enclavé dans le Sénégal. On est dans l'ouest de l'Afrique, bien sûr, 2 millions d'habitants. Son président, Yahya Jammeh, donc au pouvoir depuis 22 ans, avait été battu à l'élection présidentielle début décembre. Il refusait depuis de céder son siège au vainqueur Adama Barrow. On parle anglais là-bas, en Gambie. Alors, des troupes sénégalaises de la CDAO ont débarqué en Gambie il y a 10 jours, mettant fin à la crise, sans violence a priori, sans combat a priori, on va en reparler dans un instant avec Vincent Hugeux. Et le nouveau président Barrow a rejoint donc Banjul, la capitale, sous les vivas, c'était jeudi. Adama Barrow, donc, voilà, qui va s'asseoir maintenant dans le siège du président de la Gambie, Vincent Hugeux. Oui, je le disais, les troupes sénégalaises qui sont intervenues, bon, c'était un scénario écrit d'avance,
Oui, c'est-à-dire que là, vous avez un cocktail assez subtilement dosé de menaces militaires, de pression diplomatique et aussi d'objurgation personnelle avec le rôle qu'ont joué deux chefs d'État, le président de la Mauritanie qui n'appartient plus à la CDAO depuis quelques années, et au passage d'ailleurs, le président Abdelaziz est lui-même parvenu au pouvoir au prix d'un putsch militaire en 2008, passons, fermons la parenthèse, et la Guinée d'Alpha Condé. Donc, qui avait des liens personnels, notamment familiaux, ces gens de la Guinée, avec Barrow, qui ont invoqué sa piété, etc. Donc ça fonctionne. Bon. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que oui, il peut y avoir une intervention d'une instance sous-régionale africaine pour conduire un président qui frauduleusement s'accroche à son trône à partir en exil. Bien. Maintenant, la question véritable, c'est est-ce qu'on peut extrapoler ce modèle gambien?
Exactement.
Est-ce qu'on peut l'exporter, y compris dans d'autres régions de l'Afrique?
Parce que c'est vrai, spontanément, ce matin, aujourd'hui, là, sur BFM Business, on parle donc de la Gambie. Bon, spécialement, c'est pas forcément le pays, l'acteur le plus important du continent africain, mais c'est vrai qu'au travers de ce qui s'est passé, ça permet de se poser un certain nombre de questions, et c'est, voilà, c'est emblématique de, voilà, beaucoup de choses qui se passent sur le continent africain. Alors, Vincent Hugeux, Olivier Zajac, allez-y. Donc,
je vous avais coupé, Vincent. Ce n'est pas faire injure aux citoyens gambiens de dire que c'était un enjeu relativement mineur en termes géopolitiques. Et en plus, avec une homogénéité géographique, ouais. Avec ce grand Sénégal. N'oublions pas que dans les années 80, il y a eu un projet quasiment mort-né de fédération sénégambienne, ouais. Qui vient l'entourer et qui tient éminemment à la sécurité en Casamance. L'une des raisons de l'engagement sénégalais, d'ailleurs, c'est que Kanilaï, qui est le village natal de Yahya Jammeh, donc le président qui vient d'être poussé dehors, eh bien, c'était aussi un endroit, un foyer où se trouvait un front de la rébellion casamançaise. Mais voilà, donc on a une équation relativement simple. Donc encore une fois, il faut se réjouir qu'elle ait abouti.
Mais pourquoi ça se fait pas ailleurs, c'est ça.
Voilà, c'est ce et que notamment en Afrique centrale. Ouais. Parce qu'au fond, si vous regardez l'élection tout aussi frauduleuse d'un Ali Bongo Ondimba en août dernier au Gabon. Bien, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Pourquoi? Parce que d'abord, la communauté des États d'Afrique centrale est moins allante en matière d'intervention politico-militaire, et puis aussi parce qu'il y a un échelon au-dessus, qui est l'Union africaine. Ça relève des prérogatives de l'Union africaine, qui, une fois de plus, a montré à quel point sa performance politique en termes de respect de la norme démocratique était décevante, sinon piteuse.
Olivier Zajac, qui est par ailleurs aussi enseignant à l'école de guerre.
Oui, l'Union africaine aujourd'hui n'est pas extrêmement crédible en matière de sécurité. Ce sont d'autres acteurs qui jouent sur le terrain. Ce qui vient de se passer en Gambie, avec le rôle du Sénégal, c'est très particulier. Effectivement, le Sénégal avait des intérêts immédiats. Des intérêts, d'abord du point de vue de la localisation, de la géographie, de la rébellion indépendantiste casamançaise. Il reste pas grand-chose.
Casamance, c'est dans le sud du Sénégal. Voilà,
sud du Sénégal, territoire qui voulait...
Juste à côté de la Guinée-Bissau.
Son indépendance. Bon, le Sénégal avait toutes les raisons d'intervenir. Et en fait, le président gambien revient dans les fourgons de l'étranger, pour prendre une expression qui a déjà beaucoup servi. Ça arrange tout le monde, effectivement, on a une stabilité ici qui est garantie. Mais dans le reste de l'Afrique, ce modèle, il n'est pas reproductible en tant que tel. D'abord, vous l'avez très bien dit, les enjeux sont relativement limités avec ce cas gambien. Mais aujourd'hui, les armées africaines, en tout cas dans la bande sahélo-saharienne, en Afrique de l'Ouest, elles ont besoin d'entraînement, d'équipement, elles ont besoin de formation. Et tout ça leur est servi, leur est, pardon, fourni par des acteurs extérieurs. La France, bien entendu, qui reste pour le moment l'acteur le plus impliqué. Les États-Unis, très présents. Et puis demain, les Chinois. Ah oui. Demain, d'autres acteurs. L'Union africaine, pour l'instant, montre le spectacle de sa désunion, de son incapacité à converger sur des solutions.
Ouais, ce qui s'est passé en Gambie, je le disais, emblématique de ce qui se passe dans peut-être beaucoup d'autres pays. Stabilité au prix de quoi, finalement? Voilà, ce pays qui va retrouver la stabilité. Alors, c'est vrai, il y a Adjamé qui est parti. Il a dirigé le pouvoir pendant le pays pendant 22 ans. 22 ans, ouais. Apparemment en recourant à la torture, aux emprisonnements. Il a trouvé refuge en Guinée équatoriale, chez le président Teodoro Obiang.
Qui se ressemble, voilà. S'assemble.
Et qui se ressemble, s'assemble. Hein, qui ne va pas le livrer théoriquement à la justice, oui. Il n'y aura vraiment pas de poursuite contre lui, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, il y a la paix, moyennant justement une sorte d'immunité judiciaire contre un tyran.
Fabrice, vous mettez le doigt sur un point essentiel qui agite beaucoup les sociétés civiles africaines. Si vous voulez, c'est la thématique du prix à payer. Mmh. On vous dit, effectivement, si c'est ça le prix à payer pour que mon vote soit reconnu pour ce qu'il est, eh bien, je le regrette. Mais alors, attention à l'impunité. Souvenons-nous qu'un certain Charles Taylor, le tyran libérien, avait lui aussi reçu des garanties.
Ouais. Et puis il s'est retrouvé devant un tribunal spécial.
Et il terminera sa vie vraisemblablement en cabane. Bien. Mmh. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu énormément de garanties qui ont été données. Il y a même un hommage que je trouve excessif qui a été rendu à la sagesse de Yahya Jammeh, etc. Bon, il est parti, lui, que l'on dit pieux musulman, mu par sa volonté de ne pas faire couler le sang. Si c'était vrai, ça se saurait. Il est quand même parti avec ses 13 berlines de luxe, dont deux Rolls-Royce et une Bentley. Et il est parti en vie dans les caisses, 11 millions de dollars, semble-t-il. Bon. Mais effectivement, si vous voulez, si l'alternative... On est dans cette dialectique permanente entre morale-justice d'un côté, efficacité politique de l'autre. Donc, Smaïl Cherghi, je termine là-dessus, qui est un Algérien, qui est le patron de la Commission Paix et Sécurité de l'Union africaine. Peut-être une des seules instances qui, parfois, a un fonctionnement, que je dirais, acceptable. Il a quand même minimisé, lui, ses garanties. En disant que, certes, il a le droit d'un jour, par exemple, de revenir au pays, mais dans ce cas-là, il sera injustifiable, comme le serait comme n'importe quel ancien chef d'État.
Olivier Zajac.
Simplement, le Sénégal également s'est distancié par rapport à ça. C'est très prudent, en réalité. On le voit bien, dans 5 ans, le cas Jammeh se reposera à nouveau, et peut-être devant la justice internationale. Il n'y a pas de garantie absolue de point de vue-là. La solution, on la voulait maintenant. Bon, c'est un prix à payer. Il est peut-être...
Le mot de la fin, Vincent Jouy.
Oui, un clin d'œil de l'histoire qui est quand même assez cocasse. Qui est la patronne aujourd'hui, la procureure de la Cour pénale internationale? Fatou Bensouda, ancienne ministre de la Justice de Yahya Jammeh. Quel est le pays? Quels sont les pays qui avaient annoncé leur retrait de la CPI? Eh bien, le Burundi, certes, l'Afrique du Sud, certes, pour d'exécrables raisons dans les deux cas, et la Gambie.
Vincent Lejeu, qui adore ce pays qu'il connaît, ce continent africain, Reine d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames. Vincent Lejeu, donc, avec nous dans 7 jours dans le monde, a retrouvé donc son reportage à Mossoul, le chaos et la peur. Hein, voilà, donc 7 pages dans l'Express. On le rappelle, Reine d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames sur les First Lady africaines. Merci beaucoup Vincent Hugeux. Et puis merci également à Olivier Zajac, maître de conférence en sciences politiques à Lyon 3, enseignant à l'école de guerre, auteur de Introduction à l'analyse géopolitique avec des cartes, des graphiques, des récits, des explications. C'est fini pour 7 jours dans le monde.